Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis.
Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Vous pouvez donc nous appeler si vous le souhaitez en faisant le 4 50 40 51 41. Je répète, 4 50 40 51 41 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Et vous pouvez aussi, eh bien, nous écrire pour nous proposer de soutenir Radio Zone, Remue Ménage, cette radio associative qui donne encore trop souvent la parole à ceux qui ne l'ont pas. Je sais pas que la radio la donne trop souvent, mais il doit la donner à ceux qui n'ont toujours pas une parole publique pour dire ce qu'ils ont à dire, faire partager leurs idées et leur point de vue sur le monde qui nous entoure, puisque tel est le choix que fait Radio Zone. Remue Ménage et dans Onde Femmes, c'est la parole donnée aux femmes en particulier. Femmes qui nous parlent de leurs projets, qui nous parlent de leurs débats d'idées par rapport à leur place et leurs envies par rapport à la société qui nous entoure. Remue Ménage, comme son nom l'indique, eh bien, on mélange tout ça, on secoue pour savoir qu'est-ce qui, au cours des jours et des projets, sort comme idée concernant les femmes. Une fois par mois, eh bien, je vous propose Planète Femme qui, pour lequel tout au long de ce mois, je récupère des articles que je trouve ici et là qui concernent les femmes, un regard un peu plus long dans les journaux, accordé à un point de vue qui concerne un sujet qui concerne les femmes. Et ce tour d'horizon, eh bien, je vous en fais partager quelques pages une fois par mois dans notre émission de Remue Ménage qui a pour titre Planète Femme. Sur la planète, effectivement, c'est un maigre petit tour qui vous est proposé chaque mois. Alors aujourd'hui, à la fois, on parlera d'une étude qui montre que pour la première fois, il est possible d'empêcher totalement la transmission du virus du sida de la mère à son enfant. On parlera d'histoire parce qu'il y a des livres qui s'écrivent par les femmes et qui proposent des pages d'histoire très intéressantes en recherche. On parlera de l'exil. Hélas, cette chose, ça se fait qui frappe beaucoup de femmes aussi, dont on parle peu parce que certaines demandent le refuge en tant que femme, mais nous parlerons de surtout celles qui vivent chez nous depuis 2 mois, 10 ans, de nationalités très diverses, et comment est-ce qu'elles se retrouvent parfois entre femmes particulièrement. Tout à fait un autre monde, celui des femmes qui se passionnent pour l'horlogerie et qui donnent leur marque au temps. Et pour terminer, eh bien, des nouvelles d'une petite brochure qui est sortie dans l'association Gilles Secours à Genève. La semaine passée, nous recevions des femmes de l'association Gilles Secours. Aujourd'hui, on vous parle un peu plus en particulier de la brochure qu'elles viennent de sortir. Mais tout de suite, eh bien, nous commençons en musique avec Suzanne Vega. C'est toujours la même erreur. C'est pas Suzanne Vega, c'est Nana Giannanini.
Thank you.
Planète Femme. D'abord, nouvelle brève dans Planète Femme. On va parler de harcèlement scolaire en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Éducation part en guerre en Côte d'Ivoire contre les abus sexuels infligés aux écolières qui bien souvent se retrouvent précocement enceintes des œuvres de qui ? De l'instituteur. 37% des petites Ivoiriennes quittent l'école prématurément pour grossesse non désirée. Et très souvent, ce sont des enseignants qui sont en cause. Dans notre pays, explique une représentante ivoirienne des droits de la femme, les fillettes sont habituées à obéir aux droits et à l'œil aux adultes, et surtout s'ils détiennent le pouvoir, et les instituteurs ont des moyens de persuasion très efficaces. Ils menacent l'écolière de la faire échouer si elle résiste, ou bien au contraire de lui donner des bonnes notes si elle cède. Ce chantage est si courant qu'il porte un nom évocateur, NST, c'est-à-dire note sexuellement transmissible. Les parents laissent faire car ils rêvent d'un beau mariage, mais l'histoire se termine rarement par des noces et encore moins par une plainte. Tout au plus, l'instituteur est-il discrètement muté et l'on n'en parle plus. Le ministère compte mettre un terme à ces agissements en promulguant une loi lui permettant de poursuivre les auteurs d'abus sexuels au nom de leurs victimes. Mais malgré ces dérives scolaires, le ministre cherche aussi et surtout à promouvoir la scolarisation des filles. Elles ne sont encore que 42% en Côte d'Ivoire à suivre l'école primaire. Les femmes seront admises dès avril, admises dès avril 98 dans l'artillerie britannique, mais à condition de passer les pénibles tests physiques imposés aux hommes. C'est le seul secteur de l'armée, donc l'artillerie, où elles pourront se battre, mais de loin, en maniant le canon, en programmant des missiles. On ne compte que 8% de femmes parmi les cadres qui dirigent les entreprises allemandes à l'ouest du pays. Plus des trois quarts d'entre elles sont célibataires ou mariées, sans enfants. Et oui, chez les hommes, c'est tout le contraire, on s'en serait douté. 88% des cadres sont mariés et 55% ont des enfants. Peut-être que les choses vont changer grâce à la présence des Verts dans le nouveau gouvernement allemand. % des Israéliens ultra-orthodoxes établis pour la plupart à Jérusalem ne travaillent pas pour mieux se consacrer à l'étude des textes sacrés. C'est leur épouse qui les entretient, avec l'aide du reste, de la famille et de l'État. Je vous le disais, effectuée en Suisse, montre pour la première fois qu'il est possible d'empêcher totalement la transmission du virus du sida de la mère à son enfant. Il est possible aujourd'hui d'empêcher totalement cette transmission. Et la technique expérimentée en Suisse est publiée dans une revue spécialisée qui a pour titre AIDS, qui a été publiée au mois de juin dernier, protège les enfants grâce à la combinaison d'un accouchement par césarienne programmé et d'un traitement de base de zidovudine, ou bien plus connu communément sous le sigle AZT. Ce médicament utilisé par ailleurs pour réduire la charge virale chez les malades. On savait déjà que le traitement à lui seul pouvait réduire de 2/3 la contamination de l'enfant par sa mère, mais c'est la première fois que l'on arrive à un taux de succès de 100%. 31 enfants ont ainsi pu naître sains alors que leur mère était atteinte du sida. L'étude faite en Suisse, porteuse de cette bonne nouvelle, a été entreprise sous l'égide de la Commission fédérale suisse de coordination des recherches sur le sida. Elle est le fruit d'une collaboration entre les deux études nationales, l'une qui a pour titre « Grossesse et virus VIH » dirigée par le docteur Christophe Rudin de Bâle, et l'autre avec le titre « Virus VIH et nouveau-né » placée sous la responsabilité du docteur Christian Kind de Saint-Gall. Alors, dans les pays industrialisés, entre 20 et 25% des enfants nés d'une mère séropositive seront infectés normalement si l'accouchement se fait par les voies naturelles et si aucun traitement médicamenteux n'est mis en œuvre. De ces enfants, un quart tombera gravement malade au cours de la première année de vie et ne dépassera généralement pas l'âge de 3 ans. Le bébé n'est pourtant quasiment jamais infecté dans le ventre de sa mère. La maladie se transmet seulement au cours de la naissance. Donc l'effort du travail utérin peut par exemple favoriser le passage du sang maternel infecté à travers le placenta. L'enfant peut aussi avaler du liquide amniotique qui est infecté après la rupture des membranes fœtales. Ou encore, l'infection peut découler du contact prolongé de la peau fragile de l'enfant avec le contenu infection des voies naturelles. L'accouchement par césarienne paraissait donc une solution logique pour éviter ces risques. L'étude des deux chercheurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure a finalement apporté la confirmation scientifique de l'efficacité de la méthode. Pour y parvenir, ils ont profité en partie de l'intuition d'un autre médecin, le docteur Auch, de l'hôpital universitaire de Zurich, qui avait déjà tenté cela il y a quelques années. Sûr que cela éviterait la contamination, celui-ci proposait des césariennes à ses patientes séropositives et enceintes depuis 1988 déjà. Donc les médecins de Bâle et de Saint-Gall avaient un bon échantillon de départ. Au total, sur 494 accouchements de mères séropositives survenus dans toute la Suisse, 31 ont fait l'objet de la combinaison césarienne-médicament et durant ces derniers, aucun enfant n'a été infecté. Il semblerait même que les médecins suisses aient enregistré des succès supplémentaires depuis la fin de leurs travaux. 72 mères se sont ainsi soumises à un protocole complet. Pour 42 d'entre elles, la preuve formelle de la non-transmission a été établie et pour les autres, les analyses sont encore en cours. Alors le protocole clinique propose de pratiquer la césarienne avant les premières contractions, avant la rupture de la poche des os. Et quant à la prise du médicament l'AZT, elle commence 12 semaines avant l'accouchement. La mère en prend 5 fois par jour et durant le travail, l'AZT est administré en perfusion. Après la naissance, le médicament est donné au bébé aussi par voie orale pendant ses 6 premières semaines de vie. Et le grand avantage de ce travail a été de suivre les enfants durant quelques années, ce qui est généralement négligé, souligne un professeur à la division des maladies infectieuses de l'hôpital cantonal universitaire de Genève. Il semble qu'il y ait un petit bémol toutefois à mettre sur ce chapitre-là, puisque l'étude n'a pas pu être préparée de manière à éliminer l'influence de tous les autres facteurs possibles. Mais quoi qu'il en soit, les résultats du traitement combiné sont on ne peut plus prometteurs. La plupart des grands hôpitaux suisses proposent d'ailleurs déjà ce traitement. Pour s'assurer du succès, les femmes doivent en tout cas les respecter à la lettre, les dosages du médicament. En outre, elles ne doivent en aucun cas allaiter, car le virus pourrait aussi se transmettre par le lait maternel. Il est impératif que les femmes se soumettent à un test VIH lorsqu'elles tombent enceintes, précise le professeur Kind, et on voit encore chaque année des enfants atteints par le sida parce que leur mère ignorait elle-même leur propre séropositivité. Des études similaires sont en cours actuellement dans d'autres pays. Une vaste analyse globale est engagée aux États-Unis et fera le point sur une quinzaine de ces travaux entrepris dans le monde entier, dont celui de la Commission fédérale de coordination sur les recherches du sida. Les résultats qui devraient tomber avant la fin de l'année pourraient être présentés lors du 12e congrès du sida présentés lors du 12e congrès mondial du sida qui s'est déroulé à Genève du 28 juin au 3 juillet dernier.
that little cute red flesh with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, they're nice. I fell in love with you the first time I looked into. And you have a sad little cute way of flirting with. Ah, they make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, I'm starting. In a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eyes. I fell in love with them
de Dieu. Fou de Dieu, c'est le titre d'un récit, le récit d'une odyssée trappiste qui a eu lieu entre 1793-1815. Je vous le disais, il se trouve des femmes pour s'intéresser à l'histoire. Josiane Ferrari-Clément en est une. C'est une femme qui vit aujourd'hui dans le canton de Vaud et qui a publié aux éditions Slatkin un livre qui raconte cette odyssée des trappistes de 1793 à 1815. Alors, nous sommes à l'époque de la Révolution française et dans la folie meurtrière qui a aussi marqué cette période, particulièrement acharnée à chasser, à tuer les hommes et les femmes qui étaient voués et voués à Dieu. On se demande, enfin, Josiane Ferrari s'est demandé comment ont survécu certaines de ces congrégations. Et elle a fait donc une recherche pour comprendre cela. Elle a suivi le périple d'un moine, Nicolas-Claude Darny, exilé d'abord à la Val-Sainte, en terre fribourgeoise, et qui suivra les trappistes jusque dans les terres glacées de la Russie, où ils espéraient pouvoir échapper aux sbires de Napoléon qui les poursuivait. Alors dans son livre, elle nous brosse aussi les destinées d'autres religieux, fanatiques, décidés à garder leur foi et à la transmettre en Europe et en Amérique. Ainsi, je vous cite un petit passage concernant Urbain. Il serait le chef de l'expédition d'Amérique. Il traverserait encore les mers. Il irait encore au bout du monde, puisque c'est la volonté de Dieu. Prendre sa carcasse et ses mots, quelques compagnons, converts et religieux, cueillir quelques enfants en route, jeunes et dégueniés, regarder la route devant lui, ne plus songer au Havre. Mendier pour que les ventres ne soient pas torturés par l'effroi et le vide, pour vêtir les corps d'autre chose que de faiblesse, qu'ils puissent continuer jusqu'à Amsterdam. Souffrance, misère, faim, froid, peur, voilà tout ce qui jalonnait la route de ces pèlerins. Comment ont-ils pu résister dans des conditions de vie telles que décrites par Josiane Ferrari-Clément, cette historienne qui donc s'est occupée de cette odyssée des moines trappistes de 1793-1815? Eh bien, y en a-t-il parmi eux qui n'ont pas douté, qui ont peut-être refusé de résister? On aimerait en savoir un peu plus parfois sur certains de ces personnages dont parle Josiane Ferrari-Clément. En tout cas, c'est ce que nous dit Annette Zimmermann de la librairie des femmes. C'est comme ça qu'elle a ressenti le livre. Elle dit encore, en parlant du livre de Josiane Ferrari, qu'en introduisant son livre par un hommage aux sept pères trappistes assassinés en Algérie en 1996, eh bien, Josiane Ferrari Clément nous invite à relier deux odyssées très mal connues et à réfléchir sur l'engagement spirituel à toutes les époques. Pourquoi est-ce si difficile de vivre sa foi? Pourquoi les intégrismes de tout genre ne peuvent-ils être éradiqués? Et, semble-t-il, sur un ton jamais complaisant, en utilisant une langue poétique et proche du style de l'époque, eh bien, Josiane Ferrari Clément nous entraîne sur un chemin inédit et fort intéressant. C'est donc Fou de Dieu, récit d'une odyssée trappiste de 1793 à 1815. L'auteur, une historienne, Josiane Ferrari Clément, publié aux éditions Slatkin. Ce sont les Denise Zulana, des femmes qui chantent ces magnifiques polyphonies corses. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et nous continuons notre petit tour de la planète, Planète Femme. C'est une fois par mois dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Elles sont étrangères, elles vivent à Lausanne depuis 2 mois ou 10 ans et sont de nationalités différentes. Mais lorsqu'elles se retrouvent au centre femmes, elles ne parlent que français, ou du moins elles essayent, parce que leur vie c'est ici et maintenant. Elle arrive en coup de vent. Leïla. Elle arrive en coup de vent, 2 filets, 2 mandarines à la main, s'assied à la table de la cuisine. Elle a la trentaine, elle est algérienne. en Suisse depuis quelques années et en visite au Centre Femmes de Lausanne chaque fois qu'elle a un moment. À la cuisine, dit-elle, je me sens chez moi. En Algérie, c'est le coin où les femmes parlent sans l'intervention des hommes. Pareil ici. Le Centre Femmes, c'est au 10 de la rue des Terreaux, à Lausanne. Et les hommes ne s'aventurent pas au-delà du seuil de l'entrée. Clétis de vaisselle, écoute de voix, rire d'enfant. Le grelot qui se balance à la porte d'entrée n'en finit pas de teinter. Chaque semaine, elles sont une bonne centaine à passer la porte du centre pour se rencontrer et discuter. Que viennent-elles y faire? Qu'est-ce qu'on leur propose surtout? Alphabétisation, cours semi-intensifs de français, ateliers de couture et de tricot, mais également leçons de chant, d'aérobic ou de danse orientale. Sans compter, bien sûr, les rencontres santé sur des thèmes qui abordent la sexualité, les problèmes liés à l'exil, l'estime de soi. Des repas mijotés sur place aussi et un après-midi de rencontres ouvert à toutes, chaque mercredi. Tout un programme. Mais un seul but, aider les femmes étrangères à prendre confiance en elles pour redémarrer dans leur nouveau pays d'accueil, la Suisse. Le premier pas à faire pour une immigrée, dit Natacha, qui est animatrice au Centre Femmes de Lausanne, c'est de réaliser que sa vie se déroule ici, du moins pour l'instant, pour le temps de son exil, et commencer une nouvelle vie, c'est ce qu'elle devrait tenter de faire. Jocelyne, qui est psychopédagogue en charge de l'accueil enfant au centre, sait de quoi il retourne. Pendant longtemps, je cultivais au fond de moi l'idée de rentrer au pays, raconte par exemple cette haïtienne qui est établie en Suisse depuis 24 ans. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il faut une bonne fois prendre racine. Davantage qu'une prise de conscience, reconnaît-elle, c'est un travail plutôt qui se fait tout